Et le journal vous est présenté par Adrien Toffolet. Bonjour Adrien.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Plus dur sera le couvre-feu dans 15 départements de l'Est et du Sud de la France. Renforcement des restrictions sanitaires, couvre-feu étendu dès 18h pour tenter de limiter la propagation du Covid-19, ce qui signifie une nouvelle baisse d'activité pour les restaurateurs. Reportage à Besançon au début de ce journal. La mesure est en tout cas accueillie favorablement dans les hôpitaux des zones concernées. À Nancy par exemple, les services hospitaliers sont déjà saturés, vous l'entendrez. Et puis, après ce journal, il sera question de la stratégie vaccinale avec votre invité Chloé.
Entre autres, oui, démocratie, éthique et pandémie, nous serons avec le professeur d'éthique médicale, Emmanuel Hirsch.
Culture et Covid en France, les salles de spectacle ne rouvriront pas le 7 janvier, c'est un nouveau coup dur, nous dira Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point, alors qu'au Brésil, une ONG envoie des chants traditionnels aux médecins et malades pour soutenir leur morale.
Aux États-Unis, Donald Trump vient de subir une humiliation à quelques jours de la fin de son mandat. Républicains et démocrates se sont unis pour contourner son veto sur le budget de la défense.
Et puis en France, les conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin fusionnent ce matin. Une nouvelle collectivité qui rappelle la grande région Alsace supprimée en 2015. C'est comme si la vie s'adaptait au rythme de l'hiver. Dès ce soir, 18h, l'activité humaine va quasiment s'arrêter pour 15 départements où l'épidémie de Covid est la plus virulente. Entrée en vigueur du couvre-feu, avancée de 2h, mesure qui doit permettre, disait hier le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, de freiner le bond des contagions dans ces territoires de l'Est du pays, ainsi que dans les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. L'accueil de ce couvre-feu étendu est assez froid là-bas, notamment chez les restaurateurs, pour qui c'est un nouveau coup dur, les établissements fermés survivent grâce à la vente à emporter. Une pratique qui sera rendue difficile à partir de ce soir. Illustration avec le restaurant Les Gamins à Besançon. Marie-Coralie Fournier a tout simplement assisté au dernier service.
Parmi les clients venus tester ce dernier menu réconfortant,
ça ne desséchera pas l'accompagnement.
Voilà. Super, merci.
Baptiste, lui-même commerçant, avec le couvre-feu, il ne pourra plus récupérer sa commande.
J'aurai pas la possibilité de venir avant 18h, ça c'est sûr et certain. Impossible. C'est triste parce qu'on essaie de faire au maximum pour aider ces gens qui sont un petit peu dans la difficulté. On les met un peu au pied du mur avec cette situation-là.
Et il n'est pas le seul. La plupart des clients viennent à partir de 17h30. Impossible pour le co-gérant de ce petit resto, Arnaud, de livrer lui-même.
Sur le volume, sinon on avait passé plus de temps en livraison qu'autre chose, donc ça allait être très compliqué. Donc après, si on sort trop de monde du chômage partiel, dans ce cas-là, on ne tourne plus.
Déjà que les ventes à emporter ne leur permettent de gagner que 10% de leur chiffre d'affaires habituel, ils n'ont pas les moyens non plus de passer par les plateformes comme Uber Eats. Pour Clotilde, son épouse, le couvre-feu est une mesure superflue.
Je m'attendais à un reconfinement, donc je pensais qu'il prendrait des mesures plus radicales, histoire qu'on en finisse plus rapidement, qu'on puisse ouvrir en temps et en heure, en tout cas à la date qui nous avait donné. Très déçu, 2 heures de moins, je vois pas ce que ça va changer à part nous pénaliser toujours les mêmes.
En attendant de pouvoir reprendre une activité viable, le couple ferme donc le restaurant et en profite pour faire des travaux.
Marie-Coralie Fournier, si la situation était amenée à se dégrader davantage dans certains territoires, on prendra les décisions qui s'imposent, prévient déjà le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Avec ce couvre-feu avancé, il s'agit donc d'éviter au maximum un reconfinement pur et dur. Si du côté des commerçants, la mesure est assez incomprise, elle est en tout cas accueillie avec satisfaction du côté des médecins dans les zones concernées. Comme en Meurthe-et-Moselle où l'épidémie reprend de l'ampleur, c'est la bonne décision pour Christian Rabot, professeur de maladies infectieuses à l'hôpital de Nancy. On l'écoute.
Soit vous avez plus de 250 personnes positives pour 100 000 habitants sur 7 jours, soit vous en avez moins, et c'est sur cette barre-là qu'a été fixée au départ l'idée de renforcer les mesures de couvre-feu. Et donc nous, comme on était au-dessus de cette barre, il est tout à fait logique qu'on fasse partie des départements concernés par ce renforcement du couvre-feu. Notre hôpital est déjà saturé, on a plus de 170 patients Covid hospitalisés actuellement au CHRU de Nancy, et nos réanimations, c'est pareil, sont pour plus de 2/3 occupés par des patients Covid. Donc on sent qu'on est à nouveau dans une zone de grande tension. En tout cas, nous on était très dans l'attente que on fasse plus. On regrette plutôt le temps perdu avant la mise en place des mesures plus qu'aujourd'hui on challenge les mesures. Malheureusement, je crois qu'il faut tester, il faut faire plus. Là, on fait plus, c'est bien. Est-ce qu'il fallait faire encore plus tout de suite? C'est tout à fait possible, hein, mais c'est difficile de l'affirmer dès à présent.
Christian Rabaud, infectiologue à l'hôpital de Nancy. Il faudra attendre une quinzaine de jours avant de voir les effets de ce couvre-feu avancé. D'ici là, on pourra également observer dans les chiffres de Santé publique France les conséquences des rapprochements familiaux des fêtes de Noël. Pour l'instant, ils ne se font pas ressentir. Toutefois, le bilan des dernières 24 heures, sans surprise, n'est pas bon. On compte à nouveau plus de 19 000 contaminations au Covid ces dernières 24 heures, 133 décès supplémentaires, 64 700 morts en tout depuis mars dernier. En revanche, on note une très légère baisse du nombre de patients hospitalisés ainsi que de ceux en réanimation. Pendant ce temps, la campagne de vaccination est particulièrement lente dans l'Hexagone. La société allemande BioNTech, qui produit le vaccin, prévoit d'augmenter rapidement ses capacités dans toute l'Europe pour répondre à la demande. Elle mettra en place dès février une nouvelle unité de fabrication en Allemagne. À cette heure, un peu plus de 300 personnes en France ont reçu des doses selon le site indépendant Covid Tracker qui compile les chiffres des autorités sanitaires. Face aux critiques, le gouvernement revoit son calendrier. Dès lundi, les soignants âgés de plus de 50 ans pourront être vaccinés.
France Culture 8h06, Adrien Toffolet avec une autre mauvaise nouvelle annoncée hier par le porte-parole du gouvernement. Elle concerne le monde de la culture.
La réouverture des lieux culturels ne sera définitivement pas possible le 7 janvier prochain. Le virus circule trop, explique Gabriel Attal, ce qui ne surprend pas Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre de Rond-Point, qui avait tout de même milité ces dernières semaines pour que les établissements puissent accueillir du public. Il avait même porté un recours devant le Conseil d'État. Sans succès, on l'écoute.
Manifestement, on n'est pas du tout entendu et manifestement, voilà, ça ne marche pas. Sans doute pour des raisons que nous ignorons, sans doute parce que la pandémie prend des proportions peut-être que nous ignorons, mais que faire d'autre sinon d'être résigné? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je peux pas, personne d'entre nous ne peut tenir les vagues d'un tsunami de contraintes avec ses deux mains. Voilà, bah voilà, on est résigné. Après, l'état des dégâts, comment dirais-je, une espèce de dépression, de dégoût, de plus d'envie des créateurs, des auteurs, des comédiens, ça je ne peux pas le mesurer, mais ça va être fort. Et je vous signale en particulier, je voudrais parler des auteurs qui ne sont pas des intermittents du spectacle, n'ont aucune protection, n'ont pas de chômage partiel. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce que cette population importante, qui est un peu le pétrole de notre profession, va devenir? Je ne sais pas. Je suis pas résigné, je commence à être un petit peu perdu. Et peut-être qu'en effet, il faut rester très prudent, je ne sais plus. C'est vrai qu'à un moment, on ne sait plus que dire, on ne sait plus quoi dire.
Jean-Michel Ribes, joint par Anne Lamotte. Je vous emmène maintenant au Brésil, où justement, la culture apaise la dureté de l'épidémie. Dans une vallée isolée de l'état du Minas Gerais, où les femmes mettent à contribution leur tradition lyrique pour aider les malades et les médecins, à travers l'ONG Agenai, elles ont envoyé des vers improvisés et chantés pour ceux qui ont besoin d'un appui moral. À Rio de Janeiro, la correspondance d'Anne Vigna.
Dans les communautés rurales de l'état du Minas Gerais au Brésil, on improvise depuis toujours de la poésie qu'on chante pour se donner du courage. Une tradition racontée par Luciana.
La tradition des vers est très ancienne. Ce sont mes parents qui me l'ont transmise. Notre plaisir ici, c'est ça, chanter en travaillant, où que ce soit, au champ ou à la maison. Avant ici, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, donc notre seule diversion, c'était de chanter.
Avec le Covid-19, les femmes ont eu l'idée de chanter des vers aux malades et aux médecins pour les encourager. Elles envoient ensuite cette poésie chantée via l'application WhatsApp. Une expérience convaincante et lumineuse, décrite par Nega.
Les gens m'ont répondu en me remerciant pour les vers que je leur avais chantés. J'étais si heureuse de savoir que les quelques vers que j'ai composés leur auront monté le moral. C'était gratifiant, tant pour nous qui avons composé, comme pour ceux qui l'ont reçu.
Les femmes ont chanté pour près de 5000 personnes dans le monde entier depuis le début de cette pandémie. Et tout porte à croire que leur réconfort va encore être nécessaire cette année.
Reportage d'Anne Vigna, Rio de Janeiro. Aux États-Unis, la barre des 20 millions de cas de Covid vient d'être dépassée. Un chiffre qui a doublé en seulement 2 mois. L'épidémie flambe là-bas et les campagnes de vaccination ont pris du retard. Donald Trump avait promis 20 millions d'Américains vaccinés avant la fin 2020. Ils sont quasiment 10 fois moins à cette heure. Son successeur à la Maison-Blanche, Joe Biden, promet d'accélérer la cadence.
Et nous restons aux États-Unis avec cette humiliation subie hier par Donald Trump au Sénat.
Oui, c'est une première. Pour le président sortant, le Congrès a contourné un veto du bureau ovale. Donald Trump s'opposait au budget de la défense tel que voté par le Parlement. Qu'à cela ne tienne, le Sénat, avec l'appui des Républicains, vient de valider le budget à une écrasante majorité. À New York, les précisions de Loïc Loury.
Depuis le début de sa présidence, Donald Trump a utilisé son droit de veto à 9 reprises. Jusque-là, le Congrès n'avait jamais réussi à atteindre la majorité des 2/3 pour passer outre. C'est donc chose faite, 3 semaines avant le départ du patron de la Maison-Blanche. Lors d'une séance exceptionnelle au Sénat, républicains et démocrates, fait rare, ont voté presque d'un seul bloc pour valider ce budget défense de 740 milliards de dollars. Résultat, 81 voix contre 13 et un veto présidentiel surtout renversé. Pour Donald Trump, le camouflet est terrible. Le président assure que le texte est trop favorable à la Chine. Il critique aussi une disposition qui permet de renommer les bases militaires qui honorent des généraux confédérés. Mais les élus républicains n'auront pas suivi le président dans sa dernière bataille. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à reconnaître sa défaite lors de la présidentielle du 3 novembre.
Pour ce qui est du droit à l'avortement, 2021 démarre comme 2020 a terminé. Après l'Argentine, où le Congrès a adopté une loi autorisant l'avortement, en Corée du Sud, la loi qui la criminalisait a été supprimée hier. Même si cela était toléré et pratiqué, seules les femmes victimes de viol ou dont la grossesse mettait en danger leur santé pouvaient jusqu'à présent bénéficier d'une interruption de grossesse. Le pays se trouve maintenant dans une situation assez particulière car il n'existe pas de loi en tant que telle qui encadre l'avortement. Les explications à Séoul de Nicolas Roca.
L'entrée dans l'année 2021 a un goût de victoire pour Nae Young, dirigeante de l'association Share, une organisation de défense de droits des femmes. Après 67 ans d'interdiction, l'interruption volontaire de grossesse n'est plus illégale en Corée du Sud.
Les membres de l'Assemblée nationale n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour amender la loi existante. Elle devait expirer 1 an après la décision de la Cour constitutionnelle d'avril 2019 qui affirmait qu'elle était illégale. Les dispositions pénales sur l'avortement dans la loi qui le criminalisait ne sont plus effectives depuis ce 1er janvier 2021. Je suis très heureuse de partager cette bonne nouvelle de Corée du Sud.
De fait, l'avortement n'est plus limité à un certain nombre de semaines de grossesse, ce qui fait réagir le mouvement Pro-Vie qui milite pour le vote de plusieurs amendements. Tout d'abord pour interdire l'avortement après 6 ou 10 semaines et puis afin que les médecins aient la possibilité de refuser de pratiquer une IVG. Certaines associations de défense de droits des femmes souhaitent aussi un cadre juridique, mais pour garantir l'accès à l'avortement pour toutes et une couverture par la sécurité sociale. En tout, 8 amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale, ce qui pourrait entraîner de vifs débats dans les mois à venir.
Retour en France où la fête est finie ce matin à Lyon en Ille-et-Vilaine. Ils étaient encore plusieurs centaines cette nuit à danser dans la rave party organisée depuis jeudi soir. Suite à la réunion de crise qui s'est tenue hier soir au ministère de l'Intérieur, la police est finalement intervenue tôt ce matin. Le son a été coupé, les fêtards sont en train de quitter les lieux. Plus de 200 amendes ont déjà été distribuées. Il n'y a plus de conseil départemental du Haut-Rhin ni du Bas-Rhin. Les deux entités fusionnent en ce début d'année 2021 pour former la collectivité européenne d'Alsace. Sa toute première réunion a lieu ce matin à Colmar. Avec près de 2 millions d'habitants, ce n'est pas le retour de la région Alsace après sa suppression en 2015, mais ça y ressemble un peu, Marc Potvin.
À l'origine de la création de cette collectivité européenne d'Alsace, il y a une incompréhension, selon le LR Frédéric Bierry, candidat à la tête de cette nouvelle collectivité.
Les Alsaciens n'avaient pas compris et accepté la disparition de leur région historique. Et donc, ils avaient, depuis le début, une aspiration forte à ce qu'on retrouve un périmètre alsacien légitimé par la République.
Comme n'importe quel département, la collectivité européenne d'Alsace gère les collèges ou encore l'aide sociale, mais ses compétences vont au-delà.
Nous nous avons la capacité d'agir plus fortement dans le transfrontalier, dans l'apprentissage des langues, et notamment la langue allemande.
Et avec son budget de 2 milliards d'euros, il va falloir compter avec la collectivité européenne d'Alsace, estime Frédéric Bierry.
En termes d'image et de capacité à faire entendre les attentes des Alsaciens au niveau national, on renforce notre position.
À terme, le candidat à la présidence de cette collectivité rêve du retour d'une région Alsace, ce qui amputerait la région Grand Est. Son président, Jean Rottner, est contre.
Il ne faut pas se tromper d'objectif. Il faut faire de la politique pour avoir des projets, pas contre les uns et les autres.
Il y a plus urgent pour la collectivité européenne d'Alsace. Elle devrait choisir en septembre où elle va siéger. Deux villes rivales sur le banc, Strasbourg et Colmar. Débat nourri en perspective.
Le temps de ce samedi, on dirait beaucoup l'hiver, dites donc Chloé, avec des gelées ce matin sur une grande partie du pays. Du soleil à l'ouest, de la grisaille à l'est, de moins 5 à 2 degrés ce matin, de moins 1 à 11 degrés cet après-midi.